dans le genre de
Nicolas Maury.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Masculin. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Nicolas Maury, est-ce que vous vous trouvez viril ?
Anormalement. Anormalement viril.
Bonsoir et bienvenue dans ce 46e épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Nicolas Maury. Nicolas Maury est acteur, c'est peut-être un des acteurs les plus singuliers du cinéma français. Une peau pâle, presque diaphane, un œil noir et une voix à la fois forte et fragile qui part à la Barbara. Une présence qui bouleverse en permanence les genres, les conventions et leur préfère l'audace, l'accident. Il fait ses études au conservatoire et enchaîne assez vite les rôles. On le voit chez Philippe Garrel, Rebecca Zlotowski, Riyad Satouf. Et puis, en 2013, de manière assez inoubliable, chez Yann Gonzalez. Dans les rencontres d'après-minuit, Nicolas Maury campe, en petite robe noire et tablier blanc, une soubrette libidineuse au diadème de Reine de la Nuit. Il devient d'ailleurs une des muses de Yann Gonzalez. On le retrouve quelques années plus tard, en 2018, en producteur porno peroxydé, dans Un couteau dans le cœur, aux côtés d'une de ses idoles d'adolescence, Vanessa Paradis. Et on le retrouvera bientôt dans Perdrix, d'Erwan Leduc, présenté lors du dernier festival de Cannes. Mais le rôle qu'il révèle au grand public, il le doit à une série, 10%. Dans l'agence ASK, Nicolas Maury joue le rôle d'Hervé, l'assistant ambitieux et totalement fantaisiste, de Gabriel.
Ok, mais bon, sans promo, le film va se planter, ça va faire souffrir tout le monde. Vas-y.
Non, je suis désolé, ce qu'elle a fait, c'est impardonnable.
Enfin, moi, ça dépend des chapelles.
Quelle chapelle ?
Chapelle de pensée, oui, sur l'infidélité, en l'occurrence. Par exemple, on peut penser que personne n'appartient à personne, donc chacun fait ce qu'il veut avec son corps, donc l'infidélité, du coup, ça n'existe pas vraiment, parce que la fidélité non plus, en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans vos vieux schémas hétéro-conservateurs, Ramzy. Vous pouvez aussi être du côté de la paix, du progrès, de l'épanouissement des êtres humains.
Ouverture des portes. Non ? Bonne journée, Ramzy. Voilà, c'était Nicolas Maury, ou plutôt Hervé, un rôle auquel il a insufflé une bonne dose de fantaisie, de décalé, de poésie, loin des canons télévisuels. Mais pour l'heure, on va se replonger dans son histoire, dans son parcours. Ce soir, je vous invite à passer une heure dans le genre de Nicolas Maury.
Nova.
Dans le genre. L'enfance.
J'ai grandi dans une famille de transport. Des transports, on va dire, de la naissance vers la mort. C'est-à-dire, c'était ambulance, VSL, pompe funèbre. Voilà, c'était une famille, une entreprise familiale. Mes parents habitaient juste en face de chez mes grands-parents. Une famille très soudée.
C'était où ?
À Saint-Thierry-la-Perche, dans le Limousin.
D'accord.
Au sud de Limoges et au nord de Périgueux. Et voilà, une toute petite ville et une enfance calme avec beaucoup de liens, on va dire, apparemment repérables, ordinaires, comme dans toutes les familles. Mais moi, avec beaucoup de... Je sais pas, de... Comme si j'avais beaucoup de mots, beaucoup trop de mots pour cet univers-là dans ma tête, déjà.
Pour l'univers qui était celui dans lequel vous grandissiez ou l'univers dans lequel vos parents travaillaient ? Les deux travaillaient dans cette entreprise,
oui.
Donc de transport, en
oui,
fait.
Oui, de transport. Et puis aussi, dans... je me plais à le raconter, mais c'est... mon père vendait aussi, comme il faisait les enterrements, il vendait des plaques funéraires, des fleurs artificielles et puis des cercueils. Et j'aimais beaucoup tester les cercueils, tester les capitons. Je lui demandais de remettre le couvercle sur moi, etc. Et c'était très particulier d'entrevoir toute cette cérémonie finale. Et puis je pense que avec le recul, ces cérémonies-là, c'était comme un petit théâtre. Moi, de voir arriver des familles un peu en deuil, puisqu'on avait un magasin aussi de...
C'était Six Feet Under.
C'était Six Feet Under, voilà. Avec un père à la hauteur de Six Feet Under. Un père très, très provocateur. Un père vraiment là pour les autres, vraiment. Mais voilà, qui part à des folies spontanées et des folies assez intéressante d'adolescent, mon père.
Et alors, provocateur, audacieux, et par rapport aux normes du masculin, quel type d'homme, votre père ?
Mon père, c'est Robert De Niro.
Ah ouais ?
Ouais, mon père, c'est Robert De Niro, mélangé à Joe Pesci. C'est plutôt l'univers masculin, viril, mafioso, italien new-yorkais, mais il est totalement limougeau, enfin, il est du Limousin. Mais c'est cet univers-là... Après, mon père, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a de l'audace. C'est-à-dire que, quand même, c'est mon père qui m'a fait sniffer du popper, c'est la première fois.
Ah oui ? Ah bon, mais comment
bah, je connaissais pas, en fait, après mes parents sont divorcés, enfin voilà, mais j'avais 18 ans et je savais même pas ce que c'était. Et en fait, un jour au café, il a posé un truc de poppers et voilà. Et il m'a dit, bah, tu veux essayer.
Donc un père viril, audacieux, pas tout à fait quand même dans les normes.
Non.
Autoritaire, pas autoritaire, assez cool avec vous
Assez cool, vraiment. Vraiment cool, avec des colères suffisantes. Une façon toute particulière d'être père, la sienne. Mais non, vraiment pas un père moral. C'est ça qui est très important chez moi. J'ai pas eu un père moral, ni une mère morale.
Et votre mère, qu'est-ce que vous diriez d'elle alors?
Ma mère, c'est un continent, la mer, la région mer. Et j'ai écrit le film que je vais réaliser, mon premier long métrage, et qui est, c'est un peu un chant vers la mer et vers la région qu'on a en soi, qui est difficilement matérialisable.
Mmh.
Un jour, je parlerai des hommes mieux. Mais là, j'ai voulu écrire sur ma mère et sur le fait d'être mère, d'être cette personne-là, qui, comment, en fait, face à son enfant, on peut redevenir une personne à un moment donné de sa vie,
ouais.
Et non plus
juste cette entité-là.
Cette entité-là.
Ouais. Mais c'est quel type de femme, quand on l'imagine un peu, votre mère ?
Une femme douce, une femme inquiète. Une femme qui s'est battue beaucoup pour nous quand le cocon s'est défait. Mais pas une battante avec le côté show-off et une battante discrète, secrète. Et j'aimais beaucoup parce qu'on n'a jamais ressenti, ma sœur et moi, comment c'était pas facile avec à peine un SMIC d'avoir deux adolescents et de payer un loyer. En plus, elle avait fait exprès d'avoir, quand on a quitté la maison, une grande maison avec un jardin. Et je pense qu'il y a des choses qui se sont faites en off pour elle, voilà, qu'elle a jamais mis en scène. Et je dirais, voilà, que c'est quelqu'un de très droit, très doux. Ses sœurs, parce qu'elle a quatre sœurs et un frère. Ses sœurs l'appellent Coquinette, parce qu'elle a cette chose d'enfant. Et puis, c'était une enfant au chat. Elle m'a légué ça, c'est-à-dire que elle faisait l'école des chats quand elle était petite. C'est qu'elle adorait les petits chatons, et puis elle faisait la maîtresse des chats. Et puis voilà, on est très chats, elle et moi.
Alors, on écoute un premier titre que vous avez choisi pour nous, Nicolas. C'est un titre de Françoise Hardy, « Soleil ».
Ce n'était rien. s'allongeait sur le sable, nos rêves étaient semblables. Je me souviens, nous parlions de la maison, des enfants que nous aurions, et nous étions bien. Soleil, je t'aime, et pour toujours, tu es fidèle.
Genre 2.
Nicolas Maury.
Dans le genre 2.
Voilà, c'était Soleil de Françoise Hardy. Françoise Hardy, ça a beaucoup compté pour vous ?
Oui, elle a beaucoup compté pour moi. Oui, je trouve qu'on dirait un grand garçon qui chante. Et elle a une voix... moi, j'aime bien les voix un peu impossibles. C'est-à-dire que je trouve qu'elle a... impossible, c'est-à-dire son grain de voix est très particulier. Il est un peu métallique et pourtant assez doux, assez caressant. Et il y a une grande vague de tristesse, pour pas dire un océan parfois, qui vient pointer. Et puis j'aimais beaucoup ses looks, je les trouve très... Dans les années 60, puis 70. Et même ces phases un peu, les albums des années 80 que les gens citent moins, mais Ne tirez pas sur l'ambulance, tout ça, je trouve ça super, super, super élégant.
Alors on parlait un peu de vos parents, de là où vous avez grandi. Vous étiez quel type d'enfant, quel type de petit garçon ?
J'étais un petit garçon très, je crois, très sage. J'adorais quand... J'attendais un peu les amusements avec ma sœur, ça elle le sait pas, mais ma sœur avait plein d'amis et j'aimais bien quand ses amis étaient moins là et qu'elle m'habillait ou qu'elle me prenait en photo ou que elle me prêtait des fois ses poupées ou qu'elle venait jouer avec mes petits poneys. Et oui, j'étais cet enfant qui... J'ai l'impression d'être l'enfant qui regarde, je dirais. L'enfant qui regarde les autres et qui se pose pas la question de son être... dans un groupe, enfin, c'est-à-dire qui passe son temps à regarder les groupes, à regarder les autres. Et comme j'avais dit, ça avait plombé l'ambiance une fois à Noël, ça je l'ai écrit aussi, j'avais dit un tour de famille où il y avait tous les petits cousins, qui, du plus grand au plus petit, on disait alors comment s'est passée ta rentrée, parce que c'était quelques mois auparavant. Et moi j'étais l'avant-dernier de toute cette flopée d'enfants. Et donc, les gens disaient, eh ben moi, j'ai changé, j'ai ma maîtresse, qui est comme ça. Et moi, j'ai juste dit cette phrase qui avait traumatisé une de mes tantes et ma mère, qui avait pleuré. J'avais dit, si vous croyez que c'est drôle d'être à chaque récréation tout seul sur son tronc d'arbre. Parce qu'il y avait un tronc d'arbre coupé. Et c'était, dès que ça sonnait, c'était mon rendez-vous. J'allais m'asseoir sur le tronc d'arbre. Et je n'avais pas compris que j'avais une option, une fonction en moi qui était jouer avec les autres.
Ouais, donc vous étiez assez solitaire.
Oui.
Et après, comment ça s'est passé pour vous à l'adolescence ? J'imagine, de ce que je pressens, que les codes hyper garçons masculins, ça ne devait pas être trop votre truc.
Non, pas trop mon truc. Surtout, mais j'étais, avec le recul, je me suis dit, j'étais assez audacieux pour cette petite ville. Parce que, par exemple, j'avais adoré une espèce, parce que j'adorais Vanessa Paradis. Elle avait fait un album avec Lenny Kravitz qui en fait où elle avait ressorti ce côté un peu hippie, et moi j'avais demandé à ma grand-mère de me faire des jeans, de couper, j'avais une idée incroyable de mélanger deux jeans et de faire un triangle en bas du pantalon et qu'elle me le couse et que ça fasse des pattes d'eph. Et j'étais arrivée un jour en sixième comme ça avec mes pattes d'ef, avec des kickers rouges et jaunes. Et j'aimais bien ça, mais c'est vrai que c'était pas facile. Je me faisais quand même souvent traiter de la fille. Souvent, l'insulte suprême, c'était « Oh la fille, oh la fille, oh la voix de fille ». Et comme je chantais bien aussi, c'était « Oh là là, il chante bien, mais c'est normal, il a une voix de fille, oh, c'est une fille ». Et ouais, ça, c'était dur quand même.
Bah oui, vous disiez aussi que dans des interviews, que vos années collège, ça n'avait pas été très marrant, que vous aviez été parfois maltraité, oui. Que le sport, ça ne vous plaisait pas.
Oui.
Que...
Enfin... Bah, le sport, je me suis souvent inventé des faux certificats médicaux, je me suis inventé des scolioses, etc. Parce que ce n'était pas évident, j'étais pas dans mon corps, j'étais... Par la suite, j'ai aimé le sport, j'aime le sport, mais à l'époque, ce n'était pas facile... J'étais brutalisée, vraiment.
Et vous aviez des attirances déjà à l'adolescence ou au moment où, voilà, où on sexualise?
Je me souviens, à l'adolescence, j'avais été amoureux, je crois que c'était en cinquième, d'un garçon, mais qui ne l'a jamais su. Et comme en fait, j'avais changé d'adresse à cause du divorce, c'était juste un trajet... On partait du lycée, on allait à pied chez soi. Il était plus ou moins voisin de... Et ces rendez-vous me faisaient battre le cœur, alors que c'était finalement assez pauvre en action. Mais c'était pour moi tout un monde. Et j'aimais... Il s'appelait Xavier. Et j'aimais vraiment ses yeux. J'aimais... Mais je ne sais pas si j'aimais avec l'amour d'aujourd'hui, mais...
Ça, c'était dur pour vous à assumer l'homosexualité ou pas ?
Ça a été très longtemps. Ça a mis beaucoup de temps. Même à ce que je le dise à mes parents. Ça a été très long. J'ai toujours créé une zone de brouillard autour de ça. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas comment sont les autres, mais j'ai l'impression que c'est Barthes qui parle du principe de délicatesse. Moi, en tout cas, dans ma famille, je vivais ça, je ne vivais pas autrement. Alors, c'est peut-être pas politiquement correct mais de dire ça, mais je trouvais ça plus bienséant de ne pas le dire et de ne pas gêner les autres. Mes grands-mères que j'aimais plus que tout, que j'aime énormément, de la campagne, etc. Mais par exemple, j'ai une grand-mère qui je pense, l'a toujours su. Elle me disait, toi et moi, on est pareil, toi et moi. Pourtant, elle n'est jamais sortie de très loin de chez elle, mais...
Elle le sentait.
Elle le sentait. Et c'est un jour, je l'ai dit, mais assez tard. Alors des gens disaient, mais on le savait, mais je... En fait, il y a toujours eu un truc pour moi de l'idée d'avouer quelque chose qui me semble très problématique. Quelque chose qu'il faudrait révolutionner d'avouer. En plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas commis. Donc c'est quelque chose qui est... C'est assez troublant pour moi. Et je vois bien que même aujourd'hui, où je suis très... Mon mystère, il est dans... Il n'est pas dans ce que je cacherais, il est dans comment j'apparais, justement, mon mystère. Et ce qui est très différent de l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est carrément tout l'inverse. C'est comment on filtre... le réel pour appartenir à un groupe, sinon on est discriminé. Mais quand même, je me rends compte que j'aime bien les continents, les territoires étrangers, à mes persuasions, j'aime bien me faire provoquer quand même. Je trouve que c'est Catherine Breillat qui est une femme que j'admire énormément et qui dit cette phrase qu'il ne faut pas confondre la sexualité avec la quête en identité sexuelle. Elle a dit ça déjà il y a très très longtemps. Et j'adore l'idée d'une quête, l'idée d'une chose qui est vraiment au long cours.
Et à l'adolescence, est-ce que vous aviez des... Je sais que vous étiez ultra fan de Vanessa Paradis. Est-ce que vous aviez des modèles comme ça, identificatoires, de féminité ou de masculinité? Je crois que vous aimiez beaucoup Julia Roberts aussi.
Oui.
Vous souvenez de quoi?
Avec le recul, je ne sais pas si c'est... Oui, si ça doit être identificatoire, mais en même temps, j'aimais beaucoup le petit garçon. Je crois que j'ai le même âge que lui de Macaulay Culkin.
Oui, oui, oui.
J'aimais beaucoup... J'aimais beaucoup lui. Vanessa, c'est comme arriver comme une fée, quoi. C'est comme un... une fille de métamorphose, quoi. Et donc j'aimais beaucoup ça. Elle clivait, quoi. Je la trouvais assez radicale, assez rock, Vanessa. Mais c'est vrai que c'était plutôt peut-être les femmes. Et puis aussi l'arrivée, moi je suis un enfant des années 80, mais en 90, là où arrivait le désir, vers 10 ans peut-être, c'était l'arrivée des top modèles, des campagnes.
Les supermodèles.
Les supermodèles.
Ouais. Linda, Claudia.
Claudia
Naomi.
Elena Christensen, que j'ai adorée. Et puis après, un peu des gens un peu plus transgenres, comme Kirsten McManamy, que j'ai adoré, qui faisait des trucs avec Jürgen Teller. Mm. Et c'était la tenante un peu plus... C'est l'androgynie qui est arrivée. Je trouvais ces femmes incroyablement belles. Et oui, ça, c'était des... Je les trouvais fortes, féroces et sublimes. Après, en homme... Oui, l'arrivée de Leonardo DiCaprio. J'étais amoureux aussi je sais qu'il est mort récemment, mais de Dylan dans Beverly Hills.
Ouais, il était très beau.
Il était très beau. Très super ouais, beau. C'est
une espèce de James Dean ouais. Inventé comme ça, au Peach Pit.
Exactement.
Dans le genre de
Nicolas Maury.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre. Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Musclé.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre de l'acteur Nicolas Maury. Vous l'avez peut-être vu chez Yann Gonzalez, ou bien sûr dans la série 10%, où il interprète le rôle d'Hervé. On continue cette émission en musique avec un titre de sa sélection, et c'est Ghost Town de Kanye West.
Someday. Someday, I wanna lay down like God did on Sunday. Sunday, someday, I remember this on Sunday. That way, yeah, way, way, that day. Someday, I wanna everybody someday. I wanna hit the red dot and never find someday. So, I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. Someday we gon' set it off. Someday we gon' get this off. Baby, don't you bet it all on a path of fentanyl. You might think they wrote you off. They gon' have to roll me off. Someday the drama be gone and they'll burst. Sometimes I take all the shine, talk like I drank all the wine. Years ahead but way behind. I'm on 1, 2, 3, 4, 5. No half-truths, just naked minds. Caught between space and time. This now is blood and mine. But maybe someday. I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me.
Whoa, once again I am a child. I let go of everything that I know. Yeah, of everything that I know. Kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah, and nothing hurts anymore. I feel kind of free.
still the kids we used to be.
Dans le genre de
Nicolas Maury.
Nicolas, on en est resté un peu à la fin de votre adolescence. Puis à 18 ans, vous montez à Paris, comme on dit, pour entrer au conservatoire, pour devenir comédien. Vous trouvez facilement votre place au conservatoire ou...
Tout d'abord, il y a eu Bordeaux à 18 ans. Ouais, c'était un conservatoire à Bordeaux et Paris, c'était à 20 ans. Et au conservatoire, je n'ai pas trouvé ma place du tout de suite, parce que j'avais un professeur qui... avec qui je ne m'entendais pas du tout, Philippe Adrien, parce que... Et avec le recul, je me dis que j'avais raison de... instinctivement d'être révolutionnaire, parce que il prenait, et c'est même pas qualitatif ce que je vais dire, mais en tout cas, il disait que jouer, c'était être dans son assiette comme on serait en cheval, c'est-à-dire sur la selle, qu'il fallait se tenir comme on a dit en équitation, sinon on tombait. Alors que moi, j'ai toujours pensé que l'accident, une mauvaise voie dans un bon corps dans une mauvaise voie, c'était le début d'un sens, que c'était le début de la poésie, quelque chose qui n'était pas ergonomique, quelque chose qui n'était pas comme un meuble Ikea, qui se montait difficilement, dont les pièces étaient manquantes. Et ça, c'est sûr qu'au conservatoire, il y a eu en première année cette espèce d'entreprise de lissage de ma personne. Et j'étais la seule personne à qui il parlait comme ça aussi mal. Mais je pense que lui-même...
Vous disiez qu'il y avait une entreprise de lissage des folies.
Oui, exactement.
Mais c'est-à-dire, du coup, aussi, puisqu'ici on parle de genre et comme ça, c'est-à-dire que, du coup, se ramener à des conceptions plus classiques, j'imagine, plus normées de masculinité, par exemple.
Bien sûr, de masculinité, d'idée du jeune premier, même si ça a beaucoup bougé. Fallait pas que la voix parte, fallait pas... Oui. Alors que moi, je me sentais comme la Barbara du jeu. Et, et c'est comme si on avait dit à Barbara, non, attention, ne fais pas des aigus. Là, on est... ce qu'on appelle aussi en voix bleue, c'est-à-dire que là, ta voix, elle est ni là, ni là. Ben justement, c'est ça qui m'intéresse. Et ça m'intéressait déjà. C'est même pas que ça m'intéressait, comme dirait Duras, c'est que ça me passionnait d'écrire depuis ce que j'étais, et non pas depuis... Après, je ne suis pas contre du tout, et heureusement que j'ai fait le conservatoire, l'apprentissage d'une technique, l'apprentissage d'une autoroute même, pour que... Parce que jouer, pour moi, au théâtre, notamment, c'est construire, c'est bâtir. Et ça, je l'ai appris par la suite avec d'autres professeurs.
Oui, vous avez joué des rôles très classiques. Enfin bon, même récemment, moi, je vous ai vu jouer Dorante là, dans Le Marivaux, de Christine Hegel, Le jeu de l'amour et du hasard.
Ouais.
Mais je sais, enfin, on m'a dit que vous aviez envie de jouer Sylvia, en fait. C'est vrai.
C'est pas ça, c'est que j'avais joué Faucion, qui est le plus gros rôle féminin français, en termes de texte, dans...
Donc vous avez déjà joué des femmes, vous,
Un bulgare qui s'appelait Galine Stoev, c'était Le Triomphe de l'amour. Et c'était vraiment un rôle absolument magnifique, qui est un des rôles les plus importants pour moi. Parce que Marivaux, pour moi, c'est, je parlais d'océan tout à l'heure, mais c'est vraiment un océan. C'est avant la psychanalyse et c'est des êtres... Et c'est vrai que parfois, à Clotilde M, qui était ma partenaire, qui jouait Sylvia... Elle-même, elle me demandait aussi. Elle me disait, mais Nico, quand ça, nanana. Et je pense que c'est elle qui vous l'a dit. C'est que effectivement... C'est-à-dire que moi, j'adore regarder les autres acteurs. Et souvent, je trouve que les actrices vont plus loin. Donc, dans ma vie, j'ai beaucoup plus regardé les autres actrices. Mais c'est vrai que je sais pertinemment, je ne sais pas d'où me vient ce savoir, comment incarner un personnage féminin. Je le sais, et c'est vrai que Sylvia... Je pourrais le jouer, c'est horrible de dire ça, mais je pourrais le jouer demain. Je le visualise tellement bien. Je vois ses errants, je vois tout. Et je pense que ce serait pas mal si je le jouais. Mais Clotilde le jouait de façon très, très, très étonnante. Et en répétition, c'est une des actrices avec qui j'ai travaillé qui, en répétition, m'a le plus subjuguée de sa force, de sa...
Au tout début de l'émission, vous me disiez, quand je vous posais la question, que vous étiez anormalement viril. Vous définiriez comment votre identité, vos identités ?
Bah évidemment, en venant dans cette émission, j'ai un peu réfléchi, mais il faut dire que j'y réfléchis tous les jours, toute ma vie. Et par exemple, là, ça peut paraître très... très accessoire, très mode, mais j'ai fait des essayages pour Cannes et les questions se posent là aussi, c'est-à-dire que ben bizarrement les gens qui viennent vers moi ou les marques etc. ben c'est des gens qui s'adressent à mon audace et je trouve que moi l'audace c'est masculin et féminin. Mais pour moi, c'est une partie très audacieuse en tant qu'homme d'aller vers la femme. C'est hyper important pour moi. Enfin, c'est hyper. Je trouve que si on dit que la virilité, ce serait quelque chose d'une énergie, on va dire, qui bâtit, une énergie extérieure, une énergie visible. Moi, mon énergie visible, elle est dans le pas que je fais vers des audaces, on va dire. Ce serait ça, en ça que je serais virile. Mais parfois, j'ai des côtés très, très square hein, aussi. J'ai des côtés en moi, j'ai beaucoup mon père, j'ai beaucoup... Par exemple, je pense que j'aime, c'est bizarre, hein, je ne suis pas très schématique, moi, homme-femme, mais quand même, je sais que parfois, j'ai des élans d'amour qui sont des élans de possessivité et qui sont assez masculins. On me l'a fait repérer. Déjà, je suis assez jaloux et j'ai des choses comme ça de vouloir bien saisir une situation, parfois de bien vouloir contrôler les choses qui sont comme ça en apparence des choses assez viriles peut-être.
Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que même si vous disiez que vous aviez mis des années à faire ce qu'on appelle son coming out, mais après que affirmer ce que vous étiez, c'est-à-dire la personne que vous êtes, avec la sensibilité qui est la vôtre, avec parfois la voix qui part dans les aigus, avec, enfin, ça en tant que comédien et dans la vie, que ça n'a pas été quelque chose... vous n'avez pas douté en fait.
Ah non, parce que par exemple, cette voix-là que j'ai, les gens pensent que c'est... est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est trafiqué? C'est la voix que j'ai. C'est la tête que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit, en fait, tu es un égocentrique qui ne t'aime pas. Et c'était une phrase qui m'a beaucoup troublée. Et qu'après, j'ai trouvé très juste. C'est-à-dire que je suis quand même un être, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices, mais assez contradictoire en ça. Je peux avoir des fulgurantes de sûreté de moi, comme parfois je peux entendre un écrivain dire « c'est ça, non, c'est ça, là, ça, si c'est ça, c'est ça », et donc la phrase elle est comme ça. Et à la fois, tout à coup, une espèce de friabilité de n'être plus personne, et ça m'arrive aussi très souvent. Mais je pense que le fond, je l'ai épousé, c'est-à-dire moi. J'ai épousé quelque chose très tôt, par survie, peut-être par mon histoire, même mon histoire de... Parce que j'aime pas le terme carrière, mais mon histoire de cinéma, mon histoire de théâtre. J'ai l'impression qu'en étant anormalement soi, j'aime bien le terme anormalement. Il n'est pas moral quand je dis anormalement. C'est comme si on disait « Ah, c'est anormalement beau ». C'est pour dire beaucoup, presque. C'est pour ça que quand j'ai dit anormalement viril, je dirais que je suis très viril, mais bizarrement, peut-être dans une anormalité. Et en fait, oui, c'est peut-être cet endroit-là, anormal, que moi j'ai porté comme un drapeau.
On écoute un peu de musique. Kerenan, Nager la nuit.
Nager la nuit dans une eau qui dort, s'étendre hors circuit vers une vie offshore, suivre l'infini, s'éloigner du port, même si tout est cuit, qu'il n'y a personne à bord. Nager la nuit dans une eau glacée, se sentir envahi amour passé, chercher les non-dits dans ta voix cassée, en avoir envie, en avoir assez. J'ai beau comprendre que tu as tourné la page, que tu suivais la foule, que tu craignais l'orage. On aurait pu finir
Dans le genre.
Dans le genre.
Dans le genre.
Nicolas Maury, on parlait un petit peu de votre parcours. Vous avez plus d'une trentaine de films à votre actif. On vous a vu beaucoup dans les Yann Gonzalez aussi, hein, dont vous êtes venu une égérie. Je voulais vous demander un peu votre sentiment sur le cinéma français. Est-ce qu'il est straight, le cinéma français? Est-ce qu'il est très genré pour vous?
Je dirais oui, en termes déjà de quantité. Et après, c'est marrant, là, je vais à Cannes. Quand je dis les choses, c'est que j'aime bien repartir du réel de ce que je suis.
Ouais,
donc là, c'est que je pars à Cannes et par exemple, je me dis, mais pourquoi je ressens autant de tristesse en moi et autant de peur d'aller présenter un film qu'en plus j'ai vu hier et que j'aime beaucoup? Pourquoi ça me fait ça à chaque fois quand je vais dans des réunions où il y a du cinéma? Et j'essaye de me poser la question. Et c'est parce que, je crois... quand même, et même si on pourrait me rétorquer que c'est de moins en moins vrai, que c'est de... Mais j'ai comme jamais ma place dans ce bal. Je me sens un peu comme l'Olvestein, comme une plante verte. Et de regarder un petit peu ce bal de promo danser avec des gens que j'admire à l'intérieur, c'est pas le problème. Je dis juste de ma place, puisqu'il m'a demandé quelle serait ma place, mon point de vue. Et souvent, en fait, à force, on me dit « Oui, mais toi, t'es libre. » Des camarades qui sont plus dans ce côté straight, etc., me disent « Oui, mais toi, ce que t'as en toi, c'est que toi, t'es libre. Toi, t'es ci. Toi, t'es là. Toi, t'es transgenre. Toi, t'es ci, t'es ça. » Mais à force, ça, c'est aussi très épuisant. Vraiment, je vous le dis, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, pourrait presque me terrifier. Alors moi, je vais réaliser mon film pour ça, parce que en fait, au bout d'un moment, on pourrait fonctionnaliser ma présence.
C'est ça qui pourrait être épuisant, c'est-à-dire d'être tout le temps mis à une certaine place, en fait.
Oui, parce que je crois que mon travail, c'est de vraiment d'ouvrir tout ça.
On vous demande de jouer des hétéros ou pas?
Bah là, justement, dans le film,
jouer un hétéro.
Oui, je suis même papa. Je suis papa d'une petite fille et je suis très fière de ça. Ouais, c'est-à-dire que ça n'est pas la question. La question, c'est d'être un papa.
Bon, on parlait justement de la faculté du cinéma de représenter une diversité, des identités très diverses, des complexités, parce que la vie est très complexe. Aujourd'hui, on peut se demander aussi parfois si... parce qu'on produit de plus en plus de films, enfin on produit beaucoup de films en France, mais c'est de plus en plus difficile pour les indépendants. Et les choses finalement, alors je sais que vous n'aimez pas à la marge, mais un peu queer, un peu étrange, et pas que sur le point de vue des sexualités, parfois elles sont récupérées par la télé, par les séries, je sais pas, ce qu'on peut voir transparente sur Amazon, des choses comme ça. L'audace, elle est là aussi. Vous avez ce sentiment-là?
Oui, j'ai ce sentiment-là. Après, j'aimerais beaucoup qu'un jour... bizarrement, on me demande pas est-ce que on vous propose des rôles d'homo. parce que d'hétéro, pardon.
Oui,
excusez-moi le lapsus, mais parce que justement, bah, c'est un lapsus. C'est que justement, je pense que c'est pas un rôle d'être un hétéro ou un rôle d'être un homo. Je pense que moi, en tout cas, j'ai fait partie de ces acteurs-là que le réalisme fait chier, en gros. C'est-à-dire, je pense que Michael Lonsdale, il a en lui plein d'énergie. Et c'est en ça que ça fait une somme intéressante. Après, c'est sûr que... Mais je rêverais, et je pense que ce serait probable, mais que, par exemple, Kechiche me rêve dans un rôle...
Dans un Mektoub 4.
Ouais. Dans un rôle X ou Y, mais il y a tant à faire. Par exemple, je rêverais un jour de jouer une femme au cinéma. C'est-à-dire de ne pas jouer un homme habillé en femme. Voir si ce serait possible de jouer une femme, quelqu'un qui est une femme. Je m'appellerais Sylvie, je sais pas, mais le cinéma pourrait permettre ça.
Et le rôle d'Hervé, justement, qui vous a rendu si populaire, est-ce que vous trouvez qu'il est assez inhabituel à la télé ou et le duo que vous formiez avec Laure Calamy aussi, hein, parce que ce duo était très important. Mais est-ce que c'est un type de personnage que vous avez trouvé étonnant quand vous avez lu le scénario ou...
À la lecture du scénario, je le trouvais assez faible. Et par le regard de Cédric Lapiche, et aussi d'Antoine Garceau, et aussi de Fanny Herrero, j'ai pu le faire fleurir, ce personnage, et j'ai pu lui donner une écriture et un ADN qui soit un peu plus inattendu. Et après, j'ai eu beaucoup de chance, parce que ça a été le cas aussi pour Laure. Et puis c'est vrai que vous parliez de Laure Calamy, c'est vrai que cette fusion-là, on ne se connaissait pas avant avec Laure, c'est vraiment une amitié qui est née ici. Et cette fusion-là nous a challengés. Et en fait, c'était un partage d'audace tout d'un coup. Et ça va la faire rire, ça écoute l'émission, mais un partage de désastre aussi. C'est un mot que j'adore et qu'elle m'a volontiers volé. Mais on aime beaucoup employer ce mot, désastre, parce que ça nous fait beaucoup rire. Je pense que c'est les êtres qui nous touchent le plus, les désastreux ou les désastrés. Les désaxer. Et voilà.
On écoute La Calasse, un extrait de Tosca de Puccini, Vici d'Arte.
Thank you.
dans le genre de...
Nicolas Maury, quel rapport entretenez-vous avec votre physique ?
Alors, je m'occupe beaucoup de mon visage.
Ouais, vous êtes spécialiste crème chez Marie-Claire.
Voilà, exactement. Qui est quand même une petite révolution, mais je tiens à le souligner, c'est que la rédactrice en chef m'a proposé ça il y a un an et demi, Marianne Mérès.
Oui,
et
on
je
la salue.
Voilà, et je suis le seul homme du marché à être la Anna Wintour de la crème. Non, c'est-à-dire que il y a des hommes qui parlent des produits d'hommes, mais moi, c'est vrai que je ne différencie rien entre produits hommes ou produits femmes. Et c'est vrai que je suis assez fière quand même.
Mais vous disiez que la première crème que vous aviez achetée, c'était comme des clopes ou de la drogue, quoi.
Oui, ben oui, ça se faisait pas trop d'entrer chez une boutique, voilà. Oui, je l'ai caché. Et je me souviens. C'était une marque, je me souviens même de la crème, etc. Ouais. Ouais.
Donc vous vous occupez pas mal de votre visage.
Ouais. Oui, je m'occupe beaucoup de mon visage et j'ai qu'un miroir chez moi, je suis pas là en train de me regarder tout le temps, c'est pas ça, c'est une espèce de rituel, parce que moi je me considère un petit peu comme... C'est tout un ou tout autre, mais quand je sais que j'ai une soirée ou quelque chose qui est lié à mon métier ou au fait de se présenter devant des gens, je suis comme une geisha ou la femme de l'empereur. C'est que j'aime bien passer ma journée à faire des choses. C'est comme un rituel. Bon, je lis des livres quand même, mais justement, pendant la pose des masques ou des onguents ou des baumes, je lis des livres, mais non. Et je sais que j'ai ça en commun avec Isabelle Adjani, que j'adore. Et cet endroit de se regarder avec douceur, parce que c'est quand même un tel métier de chien, comment on peut le dire, un tel métier difficile d'être acteur à un moment donné, quand on n'est pas dans l'idée qu'être acteur, c'est une chance et que c'est un cadeau de la vie, et que tout ce vocabulaire-là, même si ça peut l'être parfois, mais quand on se dit que c'est vraiment une façon de donner des choses aux gens. Pour moi, normalement, un acteur, c'est quelqu'un qui ne fait que donner. Et ce qu'il reçoit, c'est vraiment très, très peu. Mais c'est ça, la beauté. C'est vraiment donner, donner, donner.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire ?
Alors là, rien du tout, parce que je suis vraiment... Je pourrais m'effondrer en sanglots avec votre question.
C'est vrai ?
Ah ouais. Non, franchement, c'est...
Le faites pas.
Non, mais c'est pas... Non, c'est vraiment pas un endroit...
Vous êtes pas un séducteur.
Non, non, c'est vraiment pas... Ouais, c'est un endroit facile. Non, non, j'arrive pas du tout à séduire ou draguer. Non, j'aimerais bien savoir.
Et qu'est-ce qui vous plaît chez un homme ?
J'aime vraiment toutes sortes d'apparences chez l'homme. Mais par exemple, c'est des yeux profonds et un peu humides qui en ont vu, quoi. Et c'est aussi... une façon de... Moi, je me fais souvent avoir par le même style d'homme. C'est très étrange. J'ai comme, un étalonnage.
Ouais.
C'est marrant, dans l'étalonnage, il y a étalon. Ça aussi, j'aime bien chez un homme.
Stud.
Et voilà, j'aime ça. Et j'aime aussi le côté très... j'aime voir le garçon sage qu'il a été. Mais pas qu'il est devenu.
Est-ce que vous auriez, dans une autre vie, dans celle-là, est-ce que vous auriez maître une femme ?
Oui, évidemment. Je suis un être d'expérience. J'ai appris récemment, en lisant un roman absolument sublime de Nicole Krauss qui s'appelle Forêt obscure, que Ève, figurez-vous, étymologiquement parlant, en hébreu, veut dire expérience. Et ça, je trouve que c'est vraiment la plus belle des définitions. Donc oui, parce que je trouve que la femme est un être d'expérience multiple. Et l'homme, c'est beaucoup plus un carcan, je trouve. Et parfois, c'est vrai que je me dis, ouais, j'aurais aimé être une femme pour plein d'expériences possibles.
Et est-ce que vous auriez aimé être un homme très différent de celui que vous êtes ?
Je crois pas, parce que j'ai l'impression que l'homme que je suis, c'est pas que une affaire d'instinct, c'est une affaire de construction. Je l'ai quand même décidé. Quand je regarde mes cousins, quand je regarde mes amis de l'époque, j'ai pas de regret par rapport à ça. Après, je peux avoir du regret parce que je peux envier. J'ai des garçons amis hétéros ou homo, c'est pas le problème, mais enfin très beaux et très justement sur les affaires de séduction dont vous parliez. C'est vraiment quelque chose. Ça, c'est. Il faut que j'en fasse le deuil, mais c'est vrai que c'est.
Savoir faire ça.
Savoir faire ça, être en confiance de son corps, de ses angles et tout, c'est quelque chose que j'aurais aimé en tant qu'homme, ça, vraiment.
Merci Nicolas Maury.
Merci Géraldine.
C'est la fin de cette émission, elle a été réalisée par Benoît Thuot. N'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux de Nova ou sur l'Instagram de l'émission, @dansle_genre2. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité, le comédien et réalisateur Océan. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.